Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez partagé en famille de belles fêtes de Noël. On se retrouve ce mercredi pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre magazine littéraire hebdomadaire sur Radion. Et c'est d'ailleurs ce soir la dernière émission de l'année 2012. Une émission en deux temps, tout d'abord un entretien d'une quinzaine de minutes avec Christian Bobin à l'occasion de la sortie de L'Homme Joie aux éditions L'Iconoclaste. Et puis, environ à partir de 21h15, nous serons en compagnie de Jean-Loup Chifflet pour son dictionnaire amoureux de l'humour paru aux éditions Plomb. Mais d'abord, Christian Bobin, l'écrivain, était invité par la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay le 22 décembre dernier pour discuter avec ses lecteurs. J'ai eu le plaisir pour Radion de m'entretenir avec lui à la Cité de la Voix et je lui ai d'abord demandé si Vézelay avait pour lui une valeur symbolique autour du sacré.
Non, parce que parce qu'on dit toujours la même chose, on parle à la colline éternelle, des choses comme ça. C'est un petit peu lassant. Non, c'est un endroit, c'est un village qui est très beau. Le paysage alentour est beau aussi. Mais je vais vous dire une chose. J'ai parlé tout à l'heure dans ce que vous appelez une conférence de Jean Grosjean, et Jean Grosjean est d'une chose très, très, très profonde. Ça va passer très vite pour vos auditeurs, mais ça va très loin. Il n'y a pas de sacré parce qu'il n'y a pas de profane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu particulièrement... Vous voyez ce que je veux dire ? De lieu particulièrement plus riche que d'autres. Je pense que si on a une vérité dans un lien, ou que ce soit, à ce moment-là, ce lien est magnifique.
Donc vous ne sacralisez pas Vézelay.
Voilà.
Vous ne voulez pas coller à Vézelay cette étiquette de lieu chargé d'histoire et de
chrétien. Non, parce que ça marche tout seul. Cette affaire, ça marche tout seul, vous comprenez ? La légende, elle est là, l'histoire, elle est là. Je ne veux pas en rajouter.
Alors, je me suis plongé dans L'Homme Joie, donc votre dernier opus aux éditions de l'Iconoclaste. Vous y faites l'éloge de la nature, des fleurs, la beauté d'un bouquet de fleurs. Quelle est la symbolique alors du bouquet de fleurs ? C'est que la fleur, c'est le symbole de la vie dans toute sa puissance ?
Non, il n'y a pas de symbole. C'est juste, à chaque fois, c'est l'existant. C'est-à-dire la chose qui est là. C'est pas les fleurs en général, c'est cette fleur-là. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est le singulier, c'est le vivant, donc ce qui ne peut pas être imité, ce qui ne peut pas être reproduit, ce qui ne peut même pas, dans un certain sens, être photographié. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous me parlez de fleurs, mais les fleurs les plus précieuses, peut-être, parce que les plus fragiles, comme les coquelicots, ça ne passe jamais en photographie, vous n'arrivez jamais. Ce sont des fleurs qu'on ne peut pas ramener chez soi parce qu'elles meurent aussitôt. Et même un photographe, si habile soit-il, n'arrive pas vraiment à rendre leur vérité. Non, il n'y a pas de symbolique. Il y a juste l'existant, le singulier, le vivant.
Vous apportez une nouvelle définition à ce qu'est le poète. Vous dites que le Christ est le premier des poètes parce que c'est celui qui a regardé la vie et la mort en face. Ça, c'est une identité nouvelle du poète. On connaissait le poète, le mage, le voyant. Hugo parlait du poète mage, la voyance rimbaldienne. Et vous, finalement, tout à chacun est poète, tout être humain est poète, parce qu'il faut bien regarder la vie et la mort en face. Vous regardez la mort en face, vous, Christian Bobin ?
Je ne pense pas que tout un chacun soit poète dans ce sens-là. Je ne pense pas. Ce que j'entends par poésie, si vous voulez, c'est une sorte de puissance de feu du langage. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir avoir sa vie changée par une parole. Voilà. Et le Christ, de cette façon-là, c'est la moindre des choses que de dire qu'il est poète, parce qu'il a changé la vie et le cœur de milliers, de millions de gens. C'est juste ça, cette capacité à forcer les cœurs verrouillés. Voilà, c'est ce que j'entends par là.
Dans L'Homme Joie, je vous cite Christian Bobin, « Ce qui me manquera dans l'éternité, Ce sont les livres et les lettres. Le reste ne sera que délices dès aujourd'hui sensibles. Votre vie actuelle n'est faite que d'écriture et de littérature.
En gros, oui. En gros, oui, je peux dire ça.
Alors ne passe-t-on pas à côté de certaines choses ?
Non, pas du tout, parce que l'écriture ou la lecture porte l'attention à son plus haut. Et la vie n'est que ça, n'est qu'une attention portée à ce qui passe, aux choses fragiles qui passent. Donc, non, c'est pas du tout c'est pas se priver de quoi que ce soit, c'est pas se couper du monde, c'est pas se retirer, c'est mieux le voir, se faire un pas de côté pour mieux voir.
Vous parlez, et vous l'avez dit au cours de cette conférence, vous avez parlé des parents qui sont une forêt pour les enfants, une forêt même inquiétante. Et puis, ce qui est extraordinaire, vous avez dit quelque chose qui m'a énormément interpellé. Vous avez dit, je me demande comment les enfants survivent à leur chagrin. Est-ce que je peux vous demander d'en dire un petit peu plus pour les auditrices et auditeurs?
J'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Je pense que c'est une des plus belles questions qu'on puisse se poser. Je pense qu'on est tous des survivants à un chagrin d'enfance. Qu'on puisse le nommer ou pas, qu'il ait une cause précise ou pas. On est tous, en train de survivre à quelque chose comme à quelque chose qui est au fond inconsolable, mais qu'on ne sait pas nommer. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'il y aura un élément de réponse, ça serait la beauté. La beauté, oui, les choses belles, simples, calmes. Peut-être elles aident.
La beauté, c'est ce qui sauve. C'est ce qui peut sauver une existence de la médiocrité.
Alors, je pense pas qu'il y ait de médiocrité dans les existences. Je pense que il y a des malheurs, mais des médiocrités. Est-ce que la beauté sauve? Parfois. Mais parfois, il n'y a pas de. Parfois, il n'y a pas de solution, du moins dans l'instant. Disons, si vous voulez, que il n'y a pas de solution dans la vie parce qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un problème, la vie. C'est juste aller d'un point à un autre, d'un visage à un autre, d'une expérience à une autre. C'est pas rien n'est définitivement trouvé ou gagné.
Dans La main de vie, c'est le titre d'un des 15 textes de l'homme joie, vous faites effectivement l'éloge de la vaisselle. Pourquoi cet éloge de la vaisselle?
Il faut toujours faire l'éloge de ce qui est laissé de côté. Il faut toujours.
Alors, vous avez laissé de côté aussi l'Internet, vous n'avez pas. On ne peut pas communiquer avec Christian Bourdin par Internet.
Oui, mais j'en tire pas de fierté parce que c'est pour l'instant, c'est comme ça. Le monde est ainsi fait que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, je vais être obligé de m'y mettre. J'en tire aucune fierté. Ça serait idiot. Mais disons que pour l'instant, je peux encore m'en passer, je m'en passe.
Alors on reste dans les éloges. Vous avez aussi fait l'éloge du livre en papier en expliquant qu'ils vont nous revenir. Finalement, il faut conserver ces livres et ne pas les vendre dans les vides-greniers à 50 centimes d'euros. Il faut les garder précieusement. Et vous dites qu'ils vont nous revenir justement comme étant extrêmement précieux. Moi, je ne suis pas convaincu. J'ai peur qu'en France, comme aux États-Unis, il n'y ait plus un jour de librairie.
Oh, je ne crois pas, parce que le sol américain est beaucoup moins... Il est beaucoup moins profond que le sol européen. Et là-dessus, si vous voulez, on est une terre, on est sur une terre qui est pleine d'encre. Les religions même sont nourries par l'écriture et par les livres. Donc c'est une histoire très très ancienne qui connaît en ce moment un obscurcissement, mais qui va se poursuivre. Ça j'en suis certain. Et à supposer même que ces choses disparaissent, quelqu'un un jour en connaîtra le manque. Et à ce moment-là, tout reviendra, petit à petit.
Alors vous êtes un grand lecteur, vous nous avez dit ce soir ici, dans la salle de la Cité de la Voix à Vézelay, que vous preniez le temps de lire, que vous lisiez de plus en plus lentement. Et la lecture, j'ai relevé, vous dites, c'est le visage même de la vie.
Moi, je ne saurais pas mieux dire que... Je ne saurais pas mieux dire que ça. Vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Junger, Ernst Junger, et qui, dans un de ses journaux, ces journaux sont extraordinaires, sont pleins de vie, notamment ce qui s'appelle les journaux parisiens. Il dit qu'un auteur qui commence à se commenter lui-même déchoit, tombe, voyez. Donc, je ne saurais pas vous dire plus que ce que j'ai dit tout à l'heure.
Mais vous avez dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Vous dites que vous avez étudié dans les livres et qu'ensuite, vous avez étudié les animaux et aussi les fleurs.
Et les visages.
Et les visages aussi. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que vous dites que chacun de nous est un chef-d'œuvre inachevé.
Ah oui, ça, c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr.
Est-ce que je peux vous demander de réexpliquer au micro de Radion ce que vous avez dit, c'est-à-dire que finalement nous sommes toujours un peu changeants en fonction de ceux qui sont en face de nous.
Alors
si vous voulez, ceux qui sont en face de nous qui nous modèlent.
Oui, c'est ça. Ben, on se fait les uns les autres, si vous voulez.
Là, vous êtes en train de me modeler comme je suis en train de vous modeler. Non, je ne peux pas vous modeler.
Si, d'une certaine façon, si, parce que je suis sensible à tout, donc perméable à beaucoup de choses. Donc, si. Voilà, il faudra des heures et des heures. On les aura pas, mais comment dire, la vie n'est jamais terminée, si vous voulez, voilà. La vie n'est jamais terminée, elle n'est jamais achevée. C'est plutôt consolant d'ailleurs, ça, c'est plutôt espérant. Ça veut dire que quand vous êtes au cercle froid de l'enfer, vous pouvez encore faire un pas et peut-être que ce pas-là va vous en sortir, parce que c'est pas terminé. Même à ce moment-là, c'est pas terminé. Nos visages ne sont pas finis tant que nos yeux ne se sont pas clos. Et nos vies non plus ne se sont pas finies. Et en vérité, je pense même qu'elles se poursuivent après, vous voyez. Donc, le tout de cette vie, c'est juste une phrase qui est en train de s'écrire et qu'on est tous en train... On en serait tous un peu les voyelles ou les consonnes, les lettres, les mots. Vous voyez. Et c'est pour ça que parfois on pense que ça n'a pas de sens, les choses ou la vie. Mais c'est parce qu'on est, la phrase qui est en train de s'écrire. Donc la phrase qui est en train de s'écrire, elle n'a pas de réflexion sur elle-même. Elle ne se voit pas, elle n'arrive pas à se lire, elle ne sait pas bien se lire, elle ne peut pas se lire. Mais elle est en train de se faire. Et ce dont je peux vous assurer, c'est qu'elle est pleine de sens. Je le sens. Elle est pleine de sens, cette phrase. Et qu'il n'y a aucune vie perdue définitivement. Et aucune vie ne finit avant de finir, et elles ne finissent pas.
Petite question, encore une, et ça sera vraisemblablement la dernière. Je sais, au mois d'octobre-novembre dernier, vous avez répondu négativement à l'invitation du Club des écrivains de Bourgogne. Qu'est-ce qui fait que vous vous déplacez? Je sais que vous êtes très sollicité, Christian Bobin. La dernière fois qu'on vous a vu, c'est, je crois, à la Grande Librairie sur France 5, je crois au début du mois de décembre, chez Bunel. Qu'est-ce qui fait que vous vous déplacez, comme par exemple aujourd'hui à Vézelay?
L'instinct.
C'est l'affect aussi, les
L'instinct, oui, on peut appeler ça comme ça, l'instinct, l'amitié, la sympathie pour tel ou tel libraire. L'instinct, c'est-à-dire, je ne peux pas, comme vous me voyez là, comme je suis là même en ce moment en train de parler à votre micro, et comme tout à l'heure j'ai été, je ne peux pas être comme ça, sans arrêt, et même beaucoup. Donc je choisis. Je choisis, et je n'ai pas vraiment de règles de ce choix. Ça dépend comment une demande est faite, ça dépend si c'est plus ou moins près ou plus ou moins loin de chez moi. Je préfère souvent que ce soit plus loin. Et puis c'est juste une question d'instinct et puis d'heure, de quand une rencontre doit se faire, quand quelque chose doit se faire, ça se fait. Sinon, ben peut-être un jour plus tard.
Est-ce que vous aimez ce vers d'Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous » ?
Oh, c'est joli, mais je sais pas si c'est un peu plus que joli. Je sais pas comment dire. J'ai beaucoup aimé Éluard. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. J'en pense toujours du bien. J'en pense toujours du bien. C'est un écrivain qui parlait magnifiquement de l'amour, et de quoi parler d'autre, enfin.
C'était Christian Bobin, rencontré samedi dernier à l'issue de la conférence lecture organisée par Laurent Ecquet et la librairie L'Or des Étoiles, un rendez-vous qui s'est tenu à la Cité de la Voix à Vézelay. Je rappelle que le dernier ouvrage de Christian Bobin a pour titre L'Homme Joie et il est disponible aux éditions L'Iconoclaste. En ce temps des fêtes et au lendemain de Noël, j'ai pensé qu'un peu d'humour serait votre cadeau. En effet, nous mettons en lumière un dictionnaire indispensable pour redonner le sourire à tous les auditeurs de Radion. En 1939, les Français riaient, paraît-il, 19 minutes par jour. En 1983, 6 minutes. En l'an 2000, 1 minute. Et aujourd'hui, ne rit-on plus du tout ? Eh bien, avec notre invité, on va s'en donner l'occasion et ne pas bouder notre plaisir. Et nous accueillons le sémillant Jean-Loup Chifflet. Jean-Loup Chifflet, bonsoir. Devant notre micro, alors pas besoin d'aller chercher des remèdes à l'étranger. Pour sourire ou rire, il suffit de feuilleter votre dictionnaire amoureux de l'humour, paru chez Plon, et d'explorer avec vous une partie du PHF, le paysage humoristique français. Alors Jean-Loup Chifflet, vous êtes auteur, vous êtes aussi éditeur. Comment doit-on vous présenter ? Parce que maintenant que vous avez réalisé l'œuvre de votre vie, vous êtes un homme comblé.
Il était temps parce que j'arrive à un âge où il est temps d'arriver. Enfin, j'arrive à un âge où on est content de s'accomplir. Alors, c'est vrai, vous venez de dire que c'était le livre de ma vie. Ça, c'est un petit peu pompeux, puisque j'ai compté, je crois que c'est mon 61e livre, mais je vous rassure, je suis pas si vieux que ça. Alors, dans les livres que j'ai commis en tant qu'auteur, il y a beaucoup de non-livres, mais le premier était celui qui est un petit peu décidé de ma carrière d'humoriste, si je puis dire, c'est le Sky My Husband, Ciel mon mari, qui était un livre sur l'humour, sur les ambiguïtés de la langue française et de la langue anglaise, qui a eu beaucoup de succès et qui s'est révélé, qui est toujours en vente 30 ans après. Et j'étais dans un grand groupe qui s'appelait Hachette. J'ai décidé de démissionner et de devenir à la fois auteur et éditeur, avec une spécialité, peut-être deux spécialités, l'humour anglo-saxon et aussi cette façon de parler de la culture en s'amusant, que ça soit l'anglais, le français, en éditant des gens comme Jean-Louis Fournier et bien d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, vous me présentez plutôt en tant que auteur, puisque j'ai la chance d'avoir été sélectionné, si je puis dire, par l'éditeur des fameux dictionnaires amoureux. Je crois que c'est le 70e dans la collection. Il avait attendu très longtemps pour pouvoir demander à quelqu'un de faire un dictionnaire amoureux de l'humour, parce que c'est difficile. Et je suis très très content d'avoir travaillé 2 ans pour ce livre qui a presque 800 pages.
Oui, c'est ça, c'est un énorme volume. Subjectif, comme vous le dites.
Très subjectif. Quand on est amoureux, quand on est amoureux, qui dit amoureux dit subjectif. Donc j'ai fait des choix qui ne plairont peut-être pas à tout le monde. J'ai fait des oublis involontaires ou de temps en temps volontaires, et je ne les citerai pas. J'ai privilégié l'humour que j'aime, c'est-à-dire l'humour avec et non pas l'humour contre, l'humour langagier plutôt que les comiques. Certains comiques, j'aime pas ce mot comique, et qu'on rencontre sur les plateaux de télévision et dont je ne parle pas trop. Mais voilà, c'est ce choix subjectif, ça a l'air de plaire, puisque ce livre a déjà été réimprimé plusieurs fois. Et je sais que hier à Noël, on l'a trouvé, le Père Noël a eu la gentillesse de le déposer dans des centaines de foyers.
Ce qui est une très belle idée cadeau dans un contexte un peu morose.
Exactement.
Tout de même, hein. Alors, vous mentionnez un très grand nombre d'auteurs. Il y a une foultitude de citations. C'est très riche. Là, toute l'année, on peut s'amuser en citer une tous les jours.
Oui,
au travail.
Absolument. Alors, c'est fait pour ça, oui. Alors, j'ai fait un petit plus, comme disent les publicitaires, un plus produit. J'ai les 50 dernières pages, c'est ce que j'ai appelé mon panthéon. Donc, dans ce panthéon, qui est classé par ordre alphabétique, A comme amour, académie, M comme mort, parce qu'on peut beaucoup rire aussi, on peut trouver des sujets, les saillies, comme je dis, les saillies que j'ai récoltées pendant des années et qui sont, à mon avis, la quintessence de l'humour parfait. Et c'est là que on peut puiser. Alors je m'amusais en l'écrivant, parce que j'ai été pas mal sollicité pour des discours de mariage, par exemple. Alors pour les discours de mariage, on trouve beaucoup de choses très très drôles, amour, couple, etc. Voilà, donc c'est un livre utile.
La difficulté aussi, c'est de définir ce qu'est l'humour. Alors, vous utilisez certaines citations, je pense celle de Champfort au XVIIIe siècle, qui disait « La plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri ». Tristan Bernard déclare « L'humour, c'est un excès de sérieux ».
Ça me plaît bien.
Et puis, vous dites que les grands comiques sont de plus en plus rares. Et les plus grands, finalement, ont disparu. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une génération montante ?
Alors, je voudrais faire peine à personne. Non, vous avez raison. L'humour, d'abord, pour en revenir à la cite à des définitions de l'humour, l'humour, c'est très difficile à définir parce que c'est pas une institution. Donc, et l'excès de sérieux, ça me plaît bien. Celle que je préfère, il y en a beaucoup de farfelus, parce que Queneau disait « Est-ce que c'est pas une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie ?» Bon, ça, c'est un clin d'œil. Mais celle de Jean Dutour, j'aime bien, il disait « C'est une façon de présenter les idées de profil. » Et moi, ça me plaît bien. C'est un petit peu l'humour que j'aime. Alors maintenant, c'est vrai que, bien sûr, qu'il y a une génération montante, il y a des gens pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais j'ai l'impression, en ayant travaillé sur ce livre, qu'on s'amusait beaucoup plus intelligemment au XXe siècle, toute la partie 1900-1950, avec les surréalistes, avec les pataphysiciens, avec, à partir de 70, les gens comme Pérec, Loulipo. C'était quand même un humour beaucoup plus fin que celui que l'on trouve généralement en prime time, comme on dit vulgairement, dans certaines chaînes de télévision. Et c'est ça que je regrette.
Si vous le permettez, Jean-Loup Chifflet, on se retrouve dans quelques minutes. On marque une première pause et on écoute quelqu'un à qui vous consacrez une entrée dans votre dictionnaire amoureux de l'humour. C'est Guy Bedos, que vous aimez beaucoup, semble-t-il, d'après l'article. Et on l'écoute dans un sketch bien connu avec Sophie Daumier, c'est « La drague ».
Il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il se fait décider ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout.
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot. Attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous.
Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant.
Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il n'y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Moi, celle-là est à ma taille. Elle n'est pas terrible, mais elle est à ma taille.
Pas du tout, mon géant, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme Mentec, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Il va dire que je te colle, il va dire que je te colle.
Dommage qu'elle ait les mêmes boîtes. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot.
Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con, il est con ce type. Oh, et puis alors qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je ne veux pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein?
Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti de l'orange. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, vas-y, genoux, emmène-la au ciel.
J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je vois Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien.
Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque.
Aïe! Mais il est givré, ce mec. Il vient me labourer la peau du dos avec son ongle. Tu parles d'un plaisir? Moi qui ai ma foi cicatrisée, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Puis moi que ça finisse ce gelot parce que je suis au bord de l'esclandre.
Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant.
Berk. Berk, 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 berk.
Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Il faut savoir s'imposer. C'est tout.
La drague, Guy Bedos et Sophie Domi en 1973 sur Radio. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Loup Chifflet que nous accueillons pour son dictionnaire amoureux de l'humour paru chez Plon avec des dessins, il faut le dire, d'Alain Bouldouir. Jean-Loup Chifflet, on parlait il y a quelques minutes de cette génération qui a du mal à remplacer les grands comiques de jadis. Ceci dit, à la lettre H, vous recensez les humoristes. Alors, je ne pourrais pas tous les mentionner. Je les prends un peu dans le désordre. Laurent Gérard, Albert Algou, Vincent Roca, Bruno Mazur,
oui.
Alors, Guy Carlier, Christophe Alévèque, Hervé Le Tellier, les fameuses émissions Les Papous dans la tête de France Culture.
Oui, alors justement,
que j'écoutais quand j'étais adolescent.
Oui, mais vous pouvez toujours même l'écouter.
Mais oui, je l'écoute
et oui,
moins.
Ça, c'est toujours. Alors voilà, justement.
J'adorais, pardonnez-moi, Jean-Loup Chifflet, quand j'étais adolescent, à 16 ans, j'écoutais Les Papous et il y avait 50 choses qu'il ne faut pas oublier de faire avant de mourir. Oui. Ça m'amusait énormément.
Oui. Alors, Les Papous existent toujours. Malheureusement, on a réduit leur temps de parole, c'est dommage, mais ils sont toujours, je crois, à 1h moins le quart, 12h45 tous les jours, tous les dimanches sur France Culture. Alors, c'est pas du copinage parce que c'est des amis. Alors, justement, ça répond à la question que vous me posiez tout à l'heure. Oui, il y a encore des gens formidables, comme Le Tellier, comme Patrice Delbourg, comme vous avez cité, alors, Albert Algou, bien sûr, Cueco, des gens comme ça qui, alors moi, je sais pas du copinage parce que je les ai édités. J'ai édité Albert Algou, j'ai édité François Morel, voilà un monsieur pour lequel j'ai le plus grand respect. J'ai découvert grâce à Albert Algou toute cette bande de Fluide Glacial, en particulier un de mes auteurs fétiches qui est Pascal Fioretto, qui est devenu le roi du pastiche. Donc il y a une génération montante, mais je regrette que des gens comme Vincent Roca, ces gens-là, ou comme bon, Christophe Alévèque, c'est déjà plus, c'est d'ailleurs un régional de l'État, pas loin de chez vous. Je pense que ces gens-là n'ont malheureusement pas les tribunes qu'ils devraient avoir. Ce sont des gens qui rament dans des petites théâtre parisien ou de province à des heures qui sont pas très faciles, et c'est un petit peu dommage, et c'est pour ça que je les défends, que je les cite et que je les encourage. C'est vrai que la compétition est très 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 dure avec les poids lourds. Alors, vous parliez de Guy Carlier, que j'aime beaucoup parce que nous étions ensemble chroniqueurs sur avec Bruno Mazur aussi, que j'ai édité et qui a un humour particulier, mais qui m'a fait des livres qui ont un humour particulier parce que c'est vrai que de temps en temps ces grosses vannes sont un petit peu lourdes, mais c'est un monsieur qui a quand même présenté le journal télévisé pendant 10 ans et qui a des anecdotes extrêmement amusantes.
On En début d'émission, on évoquait cette difficulté à cerner les limitations, la définition de l'humour et du rire. Il y a un sujet très intéressant. C'est une question d'ailleurs qui est posée par l'historien Jacques Le Goff, à savoir, Jésus a-t-il ri ? Alors Jean-Loup Chiffré, puisque vous êtes devant notre micro sur Radion, Jésus a-t-il ri ? Avez-vous un élément ou un début de réponse ?
C'est un vrai débat parce que je ne l'ai pas connu personnellement. J'en ai parlé avec un autre auteur qui paraît-il, un auteur que je respecte profondément, un auteur de cette collection prestigieuse, donc les dictionnaires amoureux, c'est Denis Tillinac, qui paraît-il, dans son dictionnaire amoureux du catholicisme, prétend que Jésus avait de l'humour, mais a priori on ne l'a jamais vu. Je pense que Jésus avait de l'humour, en tout cas certains de ses adeptes et ses descendants en ont, puisque je me moque de temps en temps un petit peu de la religion qui a été quelque chose de très important pour moi, parce que j'ai une éducation très religieuse, et depuis je me suis beaucoup penché, donc la religion c'est quelque chose que j'ai qui m'a beaucoup pesé, et depuis je dois dire que je m'en suis un petit peu éloigné, mais je me pose toujours des questions, et je pense à cette phrase de Beckett que j'adore, et qui disait avec beaucoup d'intelligence: mais que foutait Dieu avant la création?
Beckett a son entrée dans votre dictionnaire. C'est l'absurde aussi.
C'est l'absurde.
Le rire par l'absurde.
Exactement. Je pense à une autre phrase de je ne sais plus qui. Dieu merci, je suis athée. Bon, voilà des phrases qui on peut rire de la religion, on peut rire, comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Et Dieu, je pense que Jésus, tel qu'on nous le représentait dans les collèges catholiques et jésuites que j'ai fréquentés dans ma bonne ville de Lyon, n'avait pas vraiment le sourire aux lèvres. Vous savez que j'ai fait une je crois que c'est le premier article de mon livre, un mot très savant, que j'ai mis ça un peu pour frimer. Qu'est-ce que c'est qu'un agélaste ? Un agélaste, c'est quelqu'un qui n'a jamais ri. Alors je cite Staline, je cite Isaac Newton, je cite Margaret Thatcher, le curé d'Ars, nous y voilà, et Saint Ignace de Loyola.
Rire est le propre de l'homme, vous avez parlé des agélastes, on les trouve notamment aussi chez Rabelais, et Dieu sait si le rire rabelaisien est très, très français. En 1900, il y a le rire de Bergson, et puis en fait, je me demandais aussi en vous lisant si le rire ne pouvait pas se démoder, c'est-à-dire ce qui a fait rire il y a un siècle ne ferait peut-être pas du tout sourire aujourd'hui. Vous citez notamment Jean-Claude Carrière, qui considère, lui, par exemple, que l'œuvre de Courteline est quasiment illisible aujourd'hui. N'est-il pas un peu excessif ?
Oui,
L'été de l'Escadron, Messieurs les ronds de cuir.
Oui, c'est vrai. Ou quand on voit qu'Henri Chapier, j'ai fait un article sur Tati, qu'Henri Chapier, à l'époque, avec Monsieur Hulot et le voleur de le jour de fête, disait que c'était vraiment un humour, et Playtime, disant que c'était un humour absolument ridicule, démodé. C'est vrai que ça change beaucoup, et ça change quotidiennement. Moi, je passe mon temps dans les salons du livre avec mes différents livres d'humour, et je constate que les gens ne rient pas des mêmes choses. Dans un même livre avec des phrases humoristiques, etc., je constate qu'il y en a qui ne bronchent pas sur tel passage, d'autres qui éclatent de rire, ainsi de suite. Mais le rire a beaucoup évolué, on ne rit plus des mêmes choses, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, avec cette espèce de comique un petit peu lourd que je déplore actuellement. Je regrette vous avez parlé de l'Oulipo, ce sont les seuls des Papous, et avec quelques Oulipiens chez les Papous, comme Hervé Le Tellier. C'est un humour qui malheureusement devrait passer en prime time dans ces grandes émissions, et malheureusement on les retrouve à France Culture à 1h15 le dimanche. C'est un humour qui résiste, parce que je pense que la première partie du XXe siècle, entre 1900 et 1950, avec des gens comme Alphonse Allais, qui est mort au début du siècle, mais avec les surréalistes, que ce soit les surréalistes français, les surréalistes belges, les pataphysiciens, c'était des gens qui nous faisaient rire avec une finesse et une intelligence. Maintenant, c'est très difficile de trouver un public pour ce... C'est vrai que le rire a évolué. Le rire, ce n'est plus le même qu'avant. Et je crois que la faute en est peut-être à certains médias qui essayent de privilégier cet humour un petit peu grossier que j'appelle l'humour contre et non pas l'humour avec. Moi, je privilégie l'humour avec. Et c'est là que je pense en particulier à l'autodérision qui a une grande place dans mon livre, et en particulier avec l'humour juif, les gens qui savent rire d'eux-mêmes.
Nous sommes ce soir avec Jean-Loup Chifflet pour son dictionnaire amoureux de l'humour. On vous souhaite une excellente soirée. Voltaire écrivait « Il est poli d'être gay ». Alors vive la politesse dans notre émission ce soir. On donne rendez-vous, Jean-Loup Chifflet, dans quelques minutes à nos auditeurs. Et on va écouter Bobby Lapointe, disparu il y a 40 ans. Et on redécouvre avec bonheur Saucisson de cheval.
C'est un saucisson de cheval, un saucisson que de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie, ah, chanson de saillie. De cheval, moi qui suis esthète, de cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable, de la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh, ce qu'on s'amuse. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons. De cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire. Les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont. De cheval, toujours dans le besoin, de cheval, ça ne peut pas être pis. De chèvre, non, l'enfant c'est... Quel est cet aztèque de cheval qu'on vient de voir filer? De cheval du haut de la côte, de cheval dans le précipice, en moto peut-être bien estomac. De cheval qui vient de me ventre, de cheval un complet à garrot, de cheval et un gilet pied de poule. Allez, maintenant je suis vu comme ça, maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir de cheval et tu m'as menazo. De cheval, canapé en rotin. De cheval, et mon cœur vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas l'affronier? De cheval qui fourbu sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval, ah, comme l'écurie. Et gay. Albo saucisson. De cheval, ah, chanson de saillie. De cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi?
Plaisir de réentendre Bobby Lapointe, Jean-Louis. Là aussi, vous l'appréciez
énormément.
Oui,
bien sûr, c'était un magicien des mots. Et c'est vrai que, vous l'avez remarqué dans mon dictionnaire, c'est que j'ai privilégié l'humour avec les mots, l'humour langagier et l'humour littéraire, donc l'humour écrit. Et Bobby Lapointe écrivait ses textes.
Alors, parlons un peu de Coluche, mm-hmm. parce que Coluche était quand même un peu dans la grossièreté.
Oui.
Vous en êtes totalement d'accord, dans une grossièreté. Est-ce que aussi aujourd'hui, le politiquement correct n'a pas un peu lissé la liberté des comiques? Il y a eu des affaires sur France Inter où des gens ont été chassés, sans doute aussi par intervention du pouvoir. Donc finalement, quand on est bouffon, on peut toujours se faire couper la tête.
Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que Coluche, aurait des ennuis aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne passeraient plus.
Il y a beaucoup de choses qui ne passaient plus. Quand on pense ce qu'il disait des handicapés, la hausse du pétrole entraîne des inquiétudes chez les handicapés moteurs. Je crois que Tim Seat a eu des ennuis il n'y a pas très longtemps pour en avoir dit un petit peu moins sur les handicapés. Les juifs, pourquoi Dieu a inventé les catholiques pour qu'il y en ait quand même qui achètent au détail. Et j'en parlais l'autre jour avec des amis, je pensais à Funès aussi, qui a une place importante dans ce livre. Et je me souviens, moi, de la phrase culte du film de Funès, c'est quand il est dans, c'est dans Rabbi Jacob, et qui dit à un moment à son chauffeur qui s'appelle Salomon.
Salomon, vous êtes juif.
Salomon, vous êtes juif. Et moi, je suis persuadé que maintenant, ça ne passerait plus. Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de comme vous dites, le politiquement correct. Alors, vous évoquez probablement Stéphane Guillon ou des gens comme Porte qui ont eu des ennuis à France Inter, que j'ai connu, parce que j'étais moi-même chroniqueur à France Inter chez Stéphane Bern à une époque avec Didier Porte. C'est vrai que on leur fait des procès extrêmement. Pour Guillon, je suis réservé parce que je trouve qu'il est allé quand même un petit peu loin. Mais on en revient toujours à cette phrase des proches. On peut rire avec et qui a été modifiée par François Rollin, que j'ai un monsieur que j'aime beaucoup, que j'ai édité et qui est aussi présent dans ce livre et qui disait on peut rire
de tout, mais pas avec n'importe qui.
Ce qui est important, c'est de rire avec soi. Si ça vous fait, il faut se faire confiance. Si ça vous fait rire, vous, il faut avoir confiance en soi. Et je crois que c'est ça. Mais c'est un vrai débat. On est toujours sur le borderline. Et je crois qu'on évolue assez mal parce que maintenant, on ne peut plus rien dire. On ne peut, vous savez, aux États-Unis, c'est terrible aussi. On ne peut plus lever le petit doigt. Si vous regardez une femme dans les yeux par hasard dans un ascenseur, vous êtes immédiatement taxé de maniaque sexuelle. Bonjour, on n'en est pas là. Mais en France, c'est un petit peu dommage parce que c'est. Et puis, c'était quand même. On peut remonter beaucoup plus loin avec les Mazarinades, avec les Libelles, avec le cardinal de Retz, où on pouvait tout se permettre à l'époque. Maintenant, on ne peut plus se permettre. Non, on ne peut rien.
Il y a peut-être encore dans la presse, le Canard enchaîné se permet encore. Journal satirique par excellence.
Oui.
Charlie Hebdo, un peu fort
Charlie
aussi.
Oui, Charlie, c'est vrai, vous avez raison, la presse. Mais.
Attention aux caricatures, quand même.
Attention.
Attention.
Absolument.
Finalement, l'Église catholique est quand même plus tolérante que l'islam.
Ben oui, ça, c'est un débat. Au début, j'ai été choqué, moi aussi, parce que j'en parle de Charlie Hebdo. J'ai beaucoup d'amis à Charlie Hebdo. Je parle beaucoup de Cabu, qui est un ami personnel. Je regrette de ne pas avoir parlé de Rezer. Mais en même temps, ils ont tenu bon dans cette histoire des caricatures récemment. Ils ont été un petit peu loin. C'était vulgaire. Mais je pense que... Ils ont raison de. Ils assument parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme eux qui finalement nous fassent réfléchir.
J'aimerais qu'on vienne sur un aspect qui figure dans votre dictionnaire amoureux de l'humour, Jean-Louis Chifflet, c'est ce rire de résistance que vous évoquez notamment dans les dictatures. Vous parlez de l'Allemagne nazie et de même en Union soviétique, il y avait un humour même parfois contre le régime en place. Un humour très très limité, sans doute dans certains cercles de connaissances. Est-ce que je peux vous demander de nous en parler un peu, s'il vous plaît ?
Il y a une histoire que j'essaye de me souvenir. Oui, tout le monde, c'est une histoire que j'aime beaucoup. C'est le type qui vomit sur la place rouge et quelqu'un qui s'approche de lui en lui disant « Tu as raison, camarade, je pense comme toi ». Voilà, ça c'est une façon aussi, tout le monde sait que le poète Maïakovski s'est suicidé et que ses derniers mots ont été « Ne tirez pas, camarade ». Voilà, ça c'est une espèce d'humour. Alors je parle beaucoup de Jean-Michel Ribes non seulement c'est un homme de théâtre éminent, mais
un copain de notre actuel président de la République.
Oui, j'ai vu ça. J'espère qu'il peut faut dire que notre président de la République a a priori pas mal d'humour, d'après ce que j'ai compris, mais je sais que Rib, que je connais un petit peu, m'en a parlé, et il a raison. Moi, je me suis inspiré de deux ou trois livres formidables. Je crois qu'il y a trois tomes de, où Rib appelait ça le riz de résistance, et il a rassemblé dans ses livres tous ceux qui nous ont libérés du poids du sérieux pour essayer justement de résister. Et le rire peut être quelque chose qui nous permet de survivre. Ça nous amène aussi, je m'excuse de faire de reparler un petit peu de l'humour juif, parce que pour moi c'est du rire, c'est aussi le rire des résistances. C'est cette fameuse définition de Achille Chavée sur l'humour noir qui est que le rire est la politesse, l'humour noir est la politesse du désespoir. C'est une façon, comme le rire de résistance, de rire pour ne pas pleurer, pour se défendre. Et je pense à cette anecdote que j'en parle avec Tristan Bernard, qui était juif, et Tristan Bernard est amené à Drancy, et Sacha Guitry arrive à lui faire passer un message et il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, qu'est-ce que je peux vous apporter. Et Tristan Bernard a cette phrase magnifique, il dit un cache-nez. C'est cette façon de se protéger effectivement du malheur de la vie quotidienne et des choses. Alors, dans le rire de résistance, je parle aussi, il paraît que la population en Iran s'envoie des blagues par SMS, mais que c'est excessivement dangereux, toutes les dictatures qui essayent de survivre. Vous savez, on parlait des Agelas tout à l'heure, je disais, ceux qui n'ont jamais ri, paraît que Staline n'a ri qu'une fois dans sa vie. Il n'y avait pas de raison, il n'avait peut-être pas de raison de rire.
Je vous ai tout à l'heure un petit peu taquiné par rapport à Rib, très copain avec François Hollande. Est-ce qu'il y a un rire de droite et un rire de gauche ? Il y a peut-être évidemment, il y a des. Je pense que Guy Bedos est plutôt plutôt un rire de gauche, c'est évident.
J'aurais plutôt tendance à. Mais même.
Les gens de droite sont-ils plus drôles que les gens de gauche ou les gens de gauche sont-ils plus drôles que les gens de droite ?
C'est une très bonne question. Vous me coincez. Alors, j'aurais tendance à dire que. C'est pas forcément par affinité politique, mais si rapidement je me remémore tous les gens que je cite dans mon livre, il y a plus de gens de gauche, mais je parle quand même de gens comme Perret, qui était quand même pas Rivarol, des gens de droite. Mais
vous citez Céline.
Je cite Céline. Et alors j'ai beaucoup réfléchi. Je cite Céline et j'assume totalement. Céline, on connaît les dérives de Céline, mais Céline, quand on lit Guignol's Band, Céline avait un humour ravageur, fracassant, et je pense qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le citer. J'aurais quand même tendance à dire qu'il y a quand même peut-être maintenant, avant c'était peut-être plus l'humour de droite au XVIIe, tous ces gens au XVIIe siècle, c'était plutôt l'humour de droite. Maintenant je dirais que c'est peut-être quand même peut-être un peu plus l'humour de gauche, peut-être parce que je pense à des gens comme Desproges, je pense à des gens comme Bedos. Alors moi j'ai une idole dont je parle beaucoup dans ce livre, il était de droite, c'est Vialat. Alors Vialat, Alexandre Vialat était un catho presque intégriste, et c'est mon idole. Donc vous voyez que qui avait un humour fou et qui a eu cette définition formidable de l'humour du quotidien, puisqu'il est l'inventeur de ces fameuses chroniques. Il a pendant 20 ans, tous les dimanches soirs, il allait à la gare d'Austerlitz à Paris apporter ses chroniques qui paraissaient le lendemain matin dans La Montagne, ce journal de Clermont-Ferrand. Et Vialat, lui, c'était vraiment l'humour du quotidien. Et il a très bien défini, c'est une des définitions de l'humour que je préfère. Il dit l'homme est cet animal à chapeau mou qui attend le bus 27 à l'angle de la rue de la Glacière et du boulevard Arago à Paris. Et pour moi, il dit tout. Il dit que c'est l'humour du quotidien, c'est ce qui se passe dans la rue, etc. Alors voilà, tout ça pour répondre à votre question. Vialat est un des hommes que je vénère, et c'était un homme totalement de droite. Donc j'essaye de faire un peu la balance. Mais est-ce qu'il existe un rire de droite ou de gauche ? Je suis incapable de... Il y a des humoristes de droite, il y a des humoristes de gauche. Est-ce que le rire de gauche est peut-être un petit peu plus... j'allais dire peut-être un petit peu plus gras que l'humour de droite?
Il est l'auteur de quelques facéties, notamment donc de Sky, My Husband, Ciel mon mari, Jean-Loup Chifflet alias John Wolf Whistle.
Absolument.
Écrivain et éditeur, est en première classe dans notre wagon livre, l'émission littéraire de Radion, pour son dictionnaire amoureux de l'humour, disponible aux éditions Plomb. Alors vous êtes aussi, Jean-Loup Chifflet, l'auteur de 99 proverbes à foutre à la poubelle. Et de Oxymore, mon amour. Alors, oui. C'est une figure de style que vous... Oui. Alliance de mots, Oxymore, vous adorez, oui. Les Oxymores. Oui. Oui. Musique militaire, c'est un Oxymore. Femme savante, c'est un Oxymore.
Je vois que vous avez bien. Alors, musique militaire, j'adore. C'est pas moi, c'est Genette qui a trouvé ça, dont je parle dans mon livre, qui était au départ un homme, spécialiste de la langue. Et il a inventé deux Oxymores que j'adore. Musique militaire et banque populaire, qui sont pour moi les oxymores. Alors, oui, j'ai appelé ce livre qui a eu beaucoup de succès, qui continue à se vendre. C'est une promenade à travers la langue. J'ai appelé ça Oxymore, mon amour, mais j'aurais pu appeler ça aussi bien Accent circonflexe, mon amour. Mais j'adore les oxymores parce que je considère que je suis un petit peu un oxymore ambulant.
Alors, on ne peut pas passer tout en revue. Hein, et puis, je vais oublier, mais le Calembour, par exemple, n'a pas toujours eu bonne presse. Hein,
je crois que c'est
Molière, Voltaire et Hugo l'ont fustigé. Oui. Alors, vous parlez de l'humour involontaire. Il y a l'humour noir, l'humour juif, il y a le nonsense.
Hein, le nonsense,
l'ironie, les jeux de mots, le canular, on peut pas... Et alors, il y a un passage, il y a un chapitre consacré au titre. Alors, oui. Ça, c'est formidablement drôle. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y a un ouvrage qui a pour titre « L'histoire d'un géant écrite par un nain ». Bon, oui. Ça, sympa. Et alors, en 1895, ça, j'ai trouvé formidable. Il y en a un grand nombre, hein, Jean-Loup Chifflet. Oui. « De l'influence des queues de poissons sur les ondulations de la mer ». Ça, j'adore. Et alors, un autre « Pourquoi Jésus était-il un homme et pas une femme en 1914 ?»
Oui, et alors, il y en a un autre aussi, en 1927, « De la courbe que décrit un chien courant après son maître ». Il faut quand même le faire.
Et en 1983, « Le sexe après la mort », Jean-Loup Chifflet.
Oui, oui, oui.
Aussi.
Et puis une autre, sadisme moral et personnalité végétarienne en 1926. Ah, je suis content que vous soyez arrêté sur cet article.
Oh, c'est pas très, très drôle.
Ça fait partie de l'humour involontaire.
Mais ce sont des livres que vous avez trouvés au hasard.
Au hasard, j'ai fait des recherches et voilà. en 1827, comme quoi Napoléon n'a jamais existé.
Oui, bon. Oui. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est quand on aime la littérature, c'est de se rendre compte finalement aussi des vacheries écrites autrefois dans la presse française, ou les vacheries d'écrivains. Par exemple, Barbet d'Orvilly, je le cite, Émile Zola est le Michel-Ange de la grotte, ce qui est toujours très sympathique. Cocteau, oh, ça c'est magnifique, Cocteau parle de l'œuvre de Proust et dit... Dire qu'un asthmatique comme Proust veut élaborer une œuvre de longue haleine.
Oui, ça c'est formidable.
C'est génial.
C'est formidable. Cocteau avait un humour fou. C'est vrai, vous avez remarqué dans cet article, ils sont d'une vacherie les uns par rapport aux autres, qui est absolument exceptionnel.
Et Monterland, parlant de Flaubert, pardonnez-moi,
je vous en prie.
Je ne vole pas la vedette, mais c'est aussi un
plaisir.
Non,
mais justement, parce que je ne les ai pas toutes en tête.
Monterland, donc, dit... Flaubert manque de génie à un point qui n'est pas croyable, c'est un bœuf de labour avec un carnet de notes. Alors, la relève est quand même assurée en France. François Morel, que vous adorez, Fabrice Lucchini, Jean-Michel Ribes, Les Papous dans la tête, Valérie Lemercier, Jean Dujardin, Jean-Jacques Vanier, Jean-Marie Gouriot. Il y en a quand même à foison. Il y a eu des gens géniaux, je pense à Francis Blanche, par exemple.
Je consacre un article. Dac et Blanche, bien sûr, c'est toute mon adolescence.
Fernand Reynaud,
que j'adorais. J'adorais parce que, j'en parle, il y a un point commun entre Fernand Reynaud Pierre Repp, que j'imitais, paraît-il, quand j'étais adolescent, et ça me servait un petit peu. J'imitais pas trop mal. Et Darry Cole, c'est le trio infernal qui, quand j'avais 14-15 ans, je faisais rire les jeunes filles, et ça me servait de moyen pour essayer de séduction.
Et on peut séduire par le rire.
Mais on peut séduire par le rire, bien sûr, et j'en suis la preuve vivante.
Alors, défile dans votre dictionnaire, tous les grands de la littérature française, Clément Marot, Boileau. Est-ce que vous saviez que Boileau avait été mordu à l'entrejambe par un jarre castrateur?
Non.
Vous ne saviez pas que Boileau a été mordu par un jarre à l'entrejambe? Les gens couraient. Je pensais que vous le rappeliez. Molière.
Non, je ne peux pas.
Bustira Butin, Diderot, Voltaire, Beaumarchais, Montesquieu, Lassé. Alors, René Fallet, la soupe aux choux.
Oui, René Fallet qui était un... Et René Fallet et Paris au mois d'août. Voilà, René Fallet, c'était un... je crois que je l'ai croisé une fois. Oui, c'est vrai, il fallait en parler. Et vous voyez, quand vous dites, vous citez, j'aime bien le choix que vous faites. Je pouvais pas parler de tout le monde. Il y a des gens qui me disent, tu as pas parlé de machin. Il fallait que je fasse, comme vous on l'a rappelé au début, quand même un choix. Et ce livre n'a que 700 pages. Mais René Fallet était un monsieur qui avait, paraît-il, un mauvais caractère. Je crois que c'est Jean Carmet que j'ai rencontré. Qui, avec Jean-Louis Fournier, une fois qu'il nous parlait de Fallet, parce qu'il l'a bien connu, Fallet, avec sa tête de grincheux, d'atrabilaire, a écrit des romans formidables. Tout le monde se souvient des Vieux de la Vieille. Et puis Le Triporteur, justement, c'est un film, allemand, quand j'étais adolescent, qui était un petit peu un film culte parce que c'était d'Harry Cole, et tout ça, c'est René Fallet.
Alors, on est le 26 décembre 2012. Il y a un homme qui est mort un soir de Noël, Noël 77, c'est Charlie Chaplin. Et par exemple, en lisant l'article que vous consacrez à Charlie Chaplin, j'avais complètement oublié qu'il avait été chassé des États-Unis en 52,
oui,
je crois.
Oui, absolument, il a été chassé parce que... Oui, Chaplin a été un homme extrêmement courageux parce qu'il a résisté, il a été un des premiers avec le dictateur et des choses comme ça, à essayer de faire réfléchir l'Amérique, et puis avec ses films sur la pauvreté, etc. Oui. Il a été attaqué sauvagement, il ne pouvait même plus revenir aux États-Unis. Il a été attaqué, et ça, c'était la grande époque du macartisme, et on a oublié à quel point Chaplin a été politiquement correct, et ça a été non seulement un des plus grands, je crois que je le mets dans mon article, il est aussi connu que Jésus-Christ, et que ça a été un grand bonhomme, et que les Américains l'ont regretté après, mais c'était trop tard.
Et puis, on pourrait s'arrêter sur toutes les personnalités qui apparaissent dans votre dictionnaire. Je pense aussi à Sacha Guitry. Alors moi, je connais plus les films de Sacha Guitry que j'ai vus adolescent, qui me faisaient mourir de rire. Je trouvais cet homme génial.
Si Versailles m'était compté, il était génial. Et je raconte...
Le roman d'un tricheur.
Le roman d'un tricheur, c'est vrai. Et ça a été un des plus grands aussi. C'était un grand précurseur. À l'époque, c'était quelqu'un sur lequel il fallait compter. Et depuis, je n'ai plus les citations en tête, mais un certain nombre d'humoristes plus récents pensent que Sacha Guitry les a beaucoup inspirés.
Jean-Louis Chifflet, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et je crois qu'on peut offrir à celles et ceux que l'on aime à la fin de l'année, ou
pour commencer l'année 2013, c'est le cadeau idéal.
Le dictionnaire amoureux de l'humour de Jean-Louis Chifflet aux éditions Plon. Et merci encore.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très bonne année.
Bonne année à vous également, avec le sourire.
Avec le
merci
sourire.
Jean-Louis Chifflet.
Je remercie le Club des écrivains de Bourgogne pour l'entretien que vous venez d'entendre, entretien enregistré à Dijon le 28 novembre dernier au Sofitel La Cloche. Je remercie aussi tout particulièrement Evelyne Philippe et Bernard Lecomte. Nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2012, bon réveillon de la Saint-Sylvestre, et je remercie Laurent Equet de la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay pour avoir facilité la rencontre avec Christian Bobin, que vous avez pu entendre, je l'espère avec bonheur, au début de ce 97e numéro de Wagon Livre, et d'ailleurs dernier numéro de l'année 2012. Je vous retrouve l'année prochaine, mercredi 2 janvier 2013, avec Jean Bérénice, pour un polar bourguignon intitulé Catharsis, paru aux éditions de l'Escargot Savant, des crimes en série qui se situent entre Montbard et Semur en Auxois, et dans le milieu hospitalier, de quoi frémir. Le 9 janvier, nous recevrons Gilles Stassard, vézelien, écrivain et chroniqueur, pour un livre de photographie et de texte intitulé 600 degrés.
un livre paru aux éditions du Rouergue. 600 degrés, c'est la température à laquelle la braise émet son premier rougeoiement. Un ouvrage sur le feu nourricier, texte de Gilles Stassard, photographie de Hans Giesinger. Et puis, s'il vous plaît, notez bien le 100e numéro de Wagon Livre. Oui, le 100e numéro de votre émission littéraire qui vous sera proposée le mercredi 16 janvier prochain à 21h. Je vous rappelle également que les 20 derniers wagons sont disponibles à l'écoute et en téléchargement sur le site internet de Radion, rubrique podcast. Vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux sociaux Wagon Livre Yannick Petit. Et n'oubliez pas le blog de l'émission, blog Wagon Livre. Excellente fin de soirée sur Radion, à très bientôt. Restez-nous fidèles encore l'an prochain. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Merci et au revoir.